On dirait que tout le monde est toujours fasciné par le monde policier. En fin de semaine, j'ai lu un livre qui s'appelle « Code 401, le pouvoir de l'informateur ». Et c'est très intéressant. On réalise un peu quelle est la partie du travail des policiers qui n'est pas toujours évidente et avec laquelle on se doit de gérer des individus, gérer des problèmes de santé mentale, gérer des trafics de drogue et d'armes. Et en bout de ligne, j'ai celui qui l'a écrit le livre, qui a été un policier au SPVM pendant 28 ans. Philippe Paul est en bout de ligne. Monsieur Paul, bonjour.
Bonjour.
Peut-être première des questions. Quand je lis un livre comme celui-là, visiblement, oui, vous avez été policier pendant 28 ans, mais vous avez également été psychologue, carrément.
Bien, pour gérer ce type d'individu-là, oui, dans plusieurs cas. Écoutez, les informateurs proviennent de toutes les couches de société, de toutes les couches de société, mais principalement du monde interlope, du monde criminel. Donc, certaines de ces personnes-là n'ont jamais vraiment travaillé avec la police, ou certains n'ont jamais travaillé tout court à part voler. Donc, le fait d'être géré d'une certaine façon par quelqu'un qui les encadre, pour eux, c'est une première, et on devient un genre de père de famille d'une certaine façon. Ce qui n'est pas toujours évident à toute heure de jour ou de la nuit.
Ouais, j'ose croire. Mais comment qu'on finit par avoir ce genre de contact-là? Parce que nous, dans les médias, par exemple, on rencontre des gens, éventuellement, ces gens-là nous donnent de l'information, on les appelle, ils nous textent. Mais du côté policier, quand on fait affaire avec des mondes qui sont un monde de criminels, on fait comment pour se développer un réseau de contacts comme celui que vous aviez?
Bien, évidemment, j'ai commencé à la base lorsque j'étais patrouilleur au district 31, le vrai district 31, dans la Côte-des-Neiges. À cet endroit-là, il y a certaines personnes qui se sont intéressées à mon travail, des gens du monde interlope. Parfois, c'était des jeunes personnes. Je me souviens, les premiers informateurs étaient de jeunes personnes d'origine jamaïcaine qui voyaient le trafic d'armes et le trafic de drogue au sein de leur communauté. M'en ont fait part et ça m'a permis de rapidement saisir des armes, de la drogue, de façon très rapide. Et donc, c'est là que je voyais le pouvoir, comme l'a dit le titre, le pouvoir de l'informateur dans certains cas où on pouvait sauver des mois parfois de filature et d'écoute électronique. Donc, parfois, en quelques minutes, on pouvait rattraper le travail policier qui aurait été de longue haleine et avec des beaux résultats au bout de la ligne.
Est-ce qu'on vit avec une peur constante, avec une menace qui est pas très loin? Parce que j'imagine que ces gens-là, des fois, ont des propos qui sont quand même menaçants, qui sont violents, parce que, comme je disais tantôt, il y en a là-dedans qui, malheureusement, ont des problèmes de santé mentale. Des fois, il y en a qui cherchent l'appât du gain, peu importe. Est-ce qu'on vit avec une constante menace dans le rôle que vous aviez?
Bien, les menaces pleuvent de toutes parts. Premièrement, je dois dire que rarement j'ai été menacé par les informateurs. C'est arrivé à quelques reprises, mais souvent, ça va provenir souvent de les gens que t'as toi-même arrêté et la gang de l'Ouest ont voyé un peu la même chose. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont y mettre des au sein de leur groupe pour propager au sein du monde criminel des choses qui sont fausses à propos de l'instigateur des arrestations, dans le fait moi-même. Là. Et puis là, on pondait des informations à l'effet, à un moment donné, dans le milieu, que j'étais un tueur et que si on me donnait pas d'informations, je liquidais les informateurs ou j'étais un trafiquant de drogue ou une personne là, infâme et notoire. Évidemment, c'était pas vrai, mais en faisant ça aussi, ça leur permettait parfois de détecter qui est l'informateur. Parce que si une personne va propager exactement ce qu'il a dit, ou ce que j'ai dit envers une personne ou un autre, ça pouvait les aider à détecter qui était l'informateur. Donc, pour moi, préserver l'anonymat de ces personnes-là était la chose principale que je pouvais faire, surtout devant les tribunaux. Certains avocats se font un malin plaisir de tenter de déceler qui est l'informateur. Et dans mon cas, c'est arrivé à Mondou, presque une fois sur deux à la cour, quand c'est le temps de faire une cause pour le crime organisé, c'est toujours les mêmes avocats. Et ceux-ci n'ont que les mêmes questions qui permettent de dévoiler qui est l'informateur. Donc, pour moi, c'était une priorité de préserver leur anonymat. Et en faisant ça, ben, je me garantissais de pouvoir travailler avec eux. Ils voyaient qu'ils travaillaient avec une personne qui avait une parole. Et puis, souvent, le travail était de longue haleine pendant des années, voire des décennies.
Monsieur Paul, à quel point on a un problème? Parce que je sais que dans le livre, bon, on parle énormément de trafic de drogue, on parle de trafic d'armes. Même, je ne vais pas révéler de détails, mais à un certain moment donné, vous devez d'appréhender des gens qui sont qualifiés comme étant des terroristes à l'international. Au Québec, à quel point c'est un problème important, le trafic d'armes, le trafic de drogue et tout ce qui vient avec? Parce que des fois, j'ai l'impression qu'au Québec, on est tranquille, on est vraiment une province, une région où il se passe pratiquement rien. Mais quand on se promène sur l'île de Montréal, quand on se promène dans les gangs, visiblement au Québec, on a quand même un problème d'importance.
On a un problème d'importance, effectivement. Côté trafic d'armes, à un moment donné, j'avais fait une saisie de plusieurs armes à feu, fusils d'assaut, 45. L'individu transportait ça dans sa valise d'auto pour aller les vendre au monde interlope criminalisé arabe. Et j'ai mis la main dessus, et j'ai procédé à son arrestation. Et à ma grande surprise, mon commandant à l'époque m'avait dit « Philippe, on publicisera pas ça ». Parce qu'on ne veut pas faire peur aux citoyens. Moi, c'était le contraire. Je disais, c'est important que les gens voient que ce que la police fait sur le terrain, qu'on est là pour contrer ce type de criminalité-là. Et on voit d'autres corps policiers qui font des saisies beaucoup moindres. C'est publicisé dans les médias. Et puis nous, ben, pour une raison qui m'est encore parfois inconnue, la police de Montréal ne publicisait pas les arrestations grandioses qu'on pouvait faire pour des raisons qui sont encore nébuleuses pour moi. Mais effectivement, je trouvais que les gens auraient dû savoir que la police était là et que le trafic d'armes, c'est quelque chose qu'il faut contrer. Moi, depuis les événements du 6 décembre 89 à la Polytechnique, je suis un des premiers policiers à rentrer à l'intérieur puis à ôter l'arme dans les mains de Lépine, le tueur en série. Et puis depuis ce temps-là, je m'étais dit, je vais faire un cheval de bataille, le trafic d'armes, et essayer de les enrayer le plus possible. Et je pense que j'ai tiré mon épingle du jeu. Je sais pas combien d'armes que j'ai ôtées dans la rue, souvent entre les mains des tueurs à gages, mais assez pour sûrement faire une différence, je l'espère.
Comment qu'on se sent quand on lance une opération comme celle-là? Parce qu'à un certain moment donné, pendant ma lecture, j'ai vu que vous aviez un membre de votre famille qui était nouveau dans la police, qui vivait un stage, et vous lui avez fait vivre, c'est quoi l'arrestation, le lancement d'une opération à grande envergure. Mais vous, en tant que policier, quand vous êtes justement dans votre véhicule, quand vous savez que toutes les équipes sont en place et qu'au moment précis, on donne le go, comment qu'on se sent comme policier? J'imagine que la dose d'adrénaline doit être impressionnante. J'imagine qu'il y a aussi un stress qui nous passe à travers le corps en même temps qu'on donne le fameux go.
Bien, disons, on tombe dans notre bulle. Hein. À un moment donné, tout se met en place, tout devient clair. Et la chose principale, évidemment, c'est la sécurité. On ne veut pas que les policiers qui travaillent avec nous, nos collègues, se blessent dans l'opération et tout doit être préparé de façon chirurgicale pour qu'il n'y ait aucune embûche. On sait qu'il y en a déjà eu dans le passé et puis la police a dû s'ajuster. Et puis, heureusement, en me croisant les doigts, en 28 ans de police et en ayant fait des centaines et des centaines d'opérations policières, la vie des policiers n'a jamais été mise en péril, en tout cas ceux qui ont coopéré avec moi sur mes enquêtes. Mais effectivement, on fait attention, on est sur les dents et puis on développe ce genre de couverture autour de nous qui fait en sorte qu'on ne se concentre que sur ce qui se passe et rien de plus à ce moment-là. Là.
Je voulais qu'on revienne sur les contacts que vous aviez, parce que là, présentement, on vous entend, vous parlez bien, vous avez un bon parler, vous articulez bien, mais quand vient le temps de parler à certaines ressources, certaines personnes sur le terrain, à ce moment-là, vous changez de langage, parce qu'il faut quand même, à un certain moment donné, parler le langage de la rue aussi. Hein?
Mais il faut s'adapter. Hein? Donc, comme je l'ai dit dans mon livre, si la personne me parle bien, je lui parle bien. Si la personne est mal engueulée, je vais m'adapter rapidement à son type de langage. Mais pour évidemment, ce qu'il faut faire, c'est il faut se mettre au niveau de la personne avec qui on parle. Alors, si cette personne-là est une personne de la rue avec un langage de la rue, il faut que tu lui montres que tu connais ça et que d'une certaine façon, tu viens un peu de là toi aussi. Donc, créer le lien de confiance, c'est important. Je dis pas qu'il faut aller souper avec ce gars-là pour aller veiller chez eux dans le temps de Noël. Par contre, il faut se mettre au même niveau d'une certaine façon pour se mettre de égal à égal puis lui faire comprendre que c'est pas parce que tu es un criminel qu'on va te traiter comme de la pourriture. Et puis, je pense qu'en faisant ça adéquatement, j'ai tiré mon épingle du jeu. Et puis, c'est la raison pourquoi j'ai développé plus d'une centaine d'informateurs au cours de ma carrière également.
Et je voulais terminer avec un élément que vous avez mentionné pendant l'entrevue, qui est d'ailleurs le premier chapitre du livre « District 31 ». Est-ce que le district 31 qu'on voit sur nos télévisions le soir ressemble au district 31 que vous avez connu dans votre carrière? Parce que c'est là que vous avez commencé.
Oui, j'ai commencé au district 31 à titre de patrouilleur et par la suite, je m'occupais de la drogue dans ce même district-là. Disons que ce qu'on voit là, dans l'émission de télévision district 31, c'est ce qu'on pourrait retrouver, si tu veux, là, au sein de toute la police de Montréal, regroupée au sein d'un seul petit groupe, là, parce que pour en faire une émission intéressante. Là. Mais certaines choses se ressemblent étrangement. Et d'ailleurs, j'ai vu certaines choses dans les émissions qui ressemblent étrangement à des choses que j'ai écrites dans mon dernier livre.
OK.
Donc, évidemment, on prend notre inspiration un peu partout pour faire ce type d'émission-là. Donc, oui, ça pourrait se ressembler d'une certaine façon, tellement que Denis Arcand, le cinéaste, a lu mon livre et ça lui a donné l'idée de faire un propre film, lui qui s'appelle « La chute de l'Empire américain », dont j'ai coordonné les scènes policières dedans. Et c'était basé sur des idées là, prises, entre autres, dans mon livre, dans mon premier livre.
Ben Philippe Paul, un gros merci d'avoir pris le temps. J'invite les gens à mettre la main sur Code 41. C'est le nom qu'on donne à vos informateurs, donc le pouvoir de l'informateur. Livre que j'ai lu en fin de semaine, très intéressant. Monsieur Paul, un gros merci.
Merci beaucoup. Bonne journée et bonne lecture à tous.